Salut Paul, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger ensemble sur tout un paquet de sujets qui vous concernent. Alors, on va pouvoir parler de plein de sujets liés à la finance décentralisée, liés aux institutionnels, liés à ce qui se passe aussi en ce moment dans l'écosystème, et puis en fil rouge aussi de ce qui se passe à la conférence dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, ETCC, l'une des plus grosses conférences Ethereum européennes, voire mondiales, qui se passe ici à Paris tous les ans en juillet. C'est dans le cadre de cet événement qu'on se voit. Donc je suis très content de te recevoir dans ces nouveaux studios. On va pouvoir échanger pendant une petite demi-heure ensemble. Tu travailles chez Morpho, cofondateur de Morpho. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. J'ai vu potentiellement que vous approchez le milliard sur le protocole. Donc félicitations pour ce score assez symbolique qui va peut-être donner lieu à un rap, si j'ai bien compris, sur les qu'on va peut-être enregistrer ici même. Est-ce que tu peux présenter Morpho pour ceux qui ne connaissent pas Morpho voilà, l'intérêt que ça apporte à la finance décentralisée qu'on connaît bien sur Cryptost?
Ouais, très bien. Bon, déjà, merci de me recevoir. Morpho, c'est un protocole de lending décentralisé. Aujourd'hui, c'est même le troisième plus gros sur Ethereum. Ça permet aux utilisateurs de prêter, d'emprunter des cryptos sans intermédiaire parce que c'est de la DeFi, de la finance décentralisée, sur un smart contract, etc. Ce que Morpho est différent des autres protocoles, c'est en fait qu'il est construit dans son état actuel sur les autres protocoles de lending. C'est-à-dire que les deux plus gros protocoles de lending sont Aave et Compound.
Ouais.
Et en fait, Morpho est un protocole de lending qui s'est construit sur Aave et Compound, donc qui va donner aux utilisateurs une expérience très similaire en termes de risque, en termes de liquidité, mais qui va fournir une optimisation des taux par une technologie voilà, qu'on a inventée qui matche les utilisateurs en pair à pair plutôt que de passer par une pool de liquidité. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a l'idée que sur Aave et Compound, il y a un spread important entre le taux de prêt et le taux d'emprunt. On parle de 1% pour prêter, 3% pour emprunter. Eh bien, Morpho, c'est simple, c'est une surcouche de Aave, de Compound, qui va dire à chaque utilisateur individuellement, et si vous vous retrouvez au taux du milieu, donc à 2%, à la place de 1% pour les prêteurs et de 3% pour les emprunteurs, bah, tout le monde sera plus content, quoi. Et donc, ça, dans le premier protocole Morpho, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire pour voilà, montrer que Morpho Labs, donc la société qui développe ça, est capable de faire un protocole de lending qui a du sens, qui a de l'intérêt. On parlait d'un milliard de TVL, mais ça reste une première step pour nous. On n'a pas l'ambition de rester forever sur d'autres lending protocoles pour plein de différentes raisons qu'on peut
Ok,
aborder si tu souhaites.
carrément.
Donc voilà, donc on travaille activement sur d'autres protocoles de lending qu'on pense plus résilients, plus optimisés et plus ouverts.
Une question justement que beaucoup de gens se posent, tu as utilisé le terme Morpho Labs et on a vu beaucoup de gens passer dans ce studio utiliser le nom du protocole et un Labs juste après. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça correspond entre justement le protocole qui est décentralisé et les équipes centralisées entre guillemets qui contribuent à celui-ci légalement et dans le fonctionnement, ça se passe comment?
Oui, bien sûr. En gros, il y a l'idée que bon, nous, on a une société enregistrée en France qui s'appelle Morpho Labs, qui est une société de développement et de recherche en finance décentralisée. Donc, globalement, bon, on est 25 et c'est une vingtaine d'ingés, quoi, qui font des maths globalement
Ok.
et du code informatique. Mais on n'a pas de serveur, on n'a pas d'infrastructure ni quoi que ce soit. C'est important à comprendre et c'est une vraie différence avec Coinbase, par exemple, où ils ont de l'infrastructure, ils vont custody des fonds pour les utilisateurs, voilà, ils vont contrôler les fonds des utilisateurs. Nous, on fait juste un algorithme, on design un algorithme qu'on va publier sur la blockchain. Donc cet algorithme, il s'appelle Morpho. C'est pour ça qu'on s'appelle Morpho Labs, comme étant l'entité qui développe Morpho. Et Morpho se retrouve sur la blockchain autonome. Et c'est avec Morpho que les utilisateurs interagissent, quoi. Donc ça a des applications légales, et ça a aussi des applications, bah, tout simplement d'alignement des incentives, quoi. Dans le sens où le protocole, il est ouvert, il appartient à tout le monde et c'est un bien commun.
Ok.
Tandis que Morpho Labs, c'est une société à but lucratif classique qui vit parce qu'elle développe le protocole Morpho et qu'elle est rémunérée par celui-ci pour ce faire.
Grâce à la DAO, du coup.
C'est ça, dans l'idée. Voilà. Le modèle idéal, c'est pas encore mis en place, mais le business model de la DeFi, et c'est intéressant à comprendre par rapport à la finance traditionnelle, c'est que en finance traditionnelle, on est payé pour opérer un service financier, être digne de confiance. Voilà, l'utilisateur nous donne quelque chose avec une opération à exécuter, on l'exécute en étant digne de confiance. En DeFi, le service, il est opéré par le smart contract. Donc, il n'y a pas de business à faire là-dessus, parce que tout est open, etc. Là où il y a du business à faire, c'est sur les contributions. Et c'est là, on voit, moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait rentrer dans la DeFi, c'est que en finance traditionnelle, on est payé pour opérer un service financier clos et opaque. En finance décentralisée, on est payé pour améliorer un bien commun. C'est-à-dire que Morpho, ça appartient à tout le monde et nous, on est payé pour améliorer ce bien commun. Et ça, je trouve ça fascinant. Mais du coup, c'est de là que vient la distinction. On a aussi une association de droit français, enregistrée en France, du coup, qui permet de diversifier les contributions. C'est-à-dire que Morpho Labs, voilà, initialement, bon, c'était une idée que j'avais dans la chambre, quoi,
ouais.
Morpho, mais donc, après, on a fait une équipe. Sauf que dans le but de faire un bien commun de la lending décentralisée, idéalement, il n'y a pas qu'un seul contributeur comme Morpho Labs qui contribue au protocole. Et donc, aujourd'hui, il y a des instituts de recherche publique comme l'ILB, non publics, donc des entreprises de recherche privées qui vont contribuer, on fait partie de l'association Morpho et on contribue au protocole, quoi. Donc, c'est une association qui n'a pas de but lucratif et dont le but, c'est juste de fédérer les contributeurs principaux du protocole Morpho.
Ok, du coup, une SaaS ou une société classique dans laquelle tu es avec tes associés d'un point de vue centralisé, une asso de loi 1901, et les deux peuvent recevoir des tokens de la part de la DAO quand tout sera terminé pour les contributions qu'elles apportent, que ce soit c'est du code ou des améliorations, des idées, quoi.
Exactement.
D'accord.
Alors, en l'état, pour être un peu précis, c'est l'association qui a levé des fonds en émettant les tokens initiaux.
Okay.
Et nous, on est prestataire de services pour cette association, au même titre que d'autres entreprises de recherche sont prestataires pour l'association. À terme, l'association, c'est dans un monde idéal où on a une clarté juridique sur, sur le statut des DAO en France, et je suis en train d'arriver tranquillement, etc. L'association ne fait plus trop de sens. Et on peut se financer directement avec la DAO, etc. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué.
Okay.
Donc, on lève des fonds. Pour l'instant, on n'a pas d'interaction économique avec le protocole. Il y a un monde idéal dans lequel on est payé pour nos contributions par le protocole. C'est comme ça qu'on voit le business model dans le futur. En l'état, ce n'est pas possible. Pour des raisons régulatoires, en tout cas, nous, on ne s'y prête pas. Mais voilà, c'est ce vers quoi on aimerait attendre.
Un mot du coup sur votre levée de fonds. Vous aviez levé combien?
On avait levé 20 millions de dollars
okay.
Au total. Voilà. ce qui fait une demande considérable. Donc ça, c'était avant le launch de Morpho.
Ouais.
Donc il y a un peu plus d'un an, principalement des investisseurs américains reconnus, donc Andreessen Horowitz, Barron's, etc., qui sont les plus gros VC crypto et même de la tech dans le cas des 16U. Et voilà, et depuis, donc, on a lancé le protocole, etc.
Ok, trop bien. Il y a pareil, pour ce qui vous concerne davantage à Morpho, la grande question que les gens se posent, c'est, tu parlais du spread entre le prix que la personne va payer et celle qui apporte la liquidité, qui en théorie finance la DAO du protocole en question, donc Compound ou AV. Est-ce que c'est pas retirer un peu de revenus à ces protocoles-là que d'essayer de se mettre entre
les deux? C'est sûr. Il y a deux forces en fait dans Morpho et dans la relation de Morpho avec AV. C'est d'une part, en fait, Morpho va en effet extraire des utilisateurs pour le matcher en pair à pair. Donc c'est un peu moins de revenus pour AV, pour Compound, etc. Mais d'un autre côté, Morpho permet un taux d'intérêt qui n'est pas possible sur AV. Donc il y a toute une catégorie de personnes, ça représente à peu près la moitié de nos utilisateurs, qui ne seraient jamais venus sur AV, qui sont venus sur Morpho,
okay,
et qui finissent sur AV. Et donc c'est une longue conversation que j'ai avec la team de AV, c'est que c'est intéressant comme dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des pour et il y a des contre, quoi. Et le marché trouve son équilibre entre les deux, quoi.
Ouais, ok. Et vous avez vous aussi votre token qui a été distribué d'une manière particulière, c'est qu'il n'est pas transférable aujourd'hui.
C'est ça. Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix qui est quand même assez particulier,
ouais,
d'avoir un token, on peut minter en proposant de la liquidité ou en empruntant, ou même que les VC ont reçu, mais qui par ailleurs, là encore, n'est pas transférable.
Yes. Alors, pour moi, c'était très important d'avoir un token non transférable pour plein de raisons. J'ai vraiment suivi avec attention tous les token launch qui est dans la DeFi et même dans la crypto de manière générale. Et le plus gros problème de ces token launch, c'est l'asymétrie de l'information. C'est-à-dire qu'on a une team, des investisseurs et des gens externes de projet, voilà, souvent nommés retail, quoi.
Ouais, les utilisateurs, en tout cas.
Les utilisateurs qui vont investir dans le token. C'est globalement ces trois acteurs qui ont de l'intérêt dans le token. Et le problème, c'est qu'au moment du token launch, donc le moment où on lance le token, quoi, pour un projet, et bah, c'est un moment où les investisseurs, ils ont un upside important parce qu'ils ont toute l'information. Les contributeurs du projet aussi, c'est des informations que des utilisateurs n'ont pas.
Ouais. Voilà.
Et ce qui s'avère en pratique, c'est que investisseurs et contributeurs choisissent la date du launch, le prix du launch, et derrière, quasiment systématiquement, c'est les acheteurs moins informés qui servent de porte de sortie pour les investisseurs ou les contributeurs. Et c'est triste, mais c'est la réalité. C'est un comportement qui est interdit en finance traditionnelle et de très loin, voilà, pour les IPO, etc. Et nous, ce qu'on voulait, c'est décentraliser le token launch. C'est-à-dire que c'est le choix de dire le token va être transférable à telle date, à tel prix, etc. On pense que c'est déjà une décision communautaire qui implique utilisateurs, investisseurs et contributeurs, d'une part. Et d'autre part, y a cette idée que décentraliser trop tôt son protocole, c'est aussi, avant d'avoir trouvé réellement le purpose du protocole, la vision du protocole et d'avoir achieved sur cette vision, ça peut être aussi se mettre un boulet au pied, quoi. C'est-à-dire que si on a... voilà, ça a des implications de rendre son token liquide. C'est pas pour rien qu'aucune des entreprises actuelles... Alors, il y a une question d'infrastructure où c'est très difficile de rendre de l'equity liquide voilà, en faisant une IPO. Mais il y a aussi une raison pour laquelle seulement un très faible pourcentage des entreprises et seulement une taille très importante ont fini par faire une vente d'actions publiques, etc. Voilà, je pense qu'il y a aussi une question de maturité du protocole qui est importante à avoir en tête.
Ouais, c'est-à-dire qu'un jour, effectivement, il y aura quand même cette possibilité d'aller sur Uniswap et de trader votre token contre
des CO ou n'importe quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on veut vraiment rendre le choix du moment, du prix, décentralisé, quoi, réellement. Pardon, il y a un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est important aussi pour nous que l'accès à l'information au moment du launch soit le plus uniforme possible. Aujourd'hui, chez Morpho Labs, on travaille sur plein de choses qui sont encore closed source. Et donc, voilà, les utilisateurs, les potentiels acheteurs n'auraient pas conscience, quoi. Là où certains de nos investisseurs sont au courant. Et on ne devrait pas lancer un token avec cette asymétrie d'information, quoi.
Et aujourd'hui, justement, s'il y a une des infos que vous développez publiquement ou que vous êtes en train de terminer de développer publiquement, que les gens devraient savoir, ce serait quoi la vraie proposition de valeur que tu aimerais leur transmettre?
Ouais, bien sûr. Ça fait 2 ans que je travaille dans le lending décentralisé. 1 an qu'on construit le protocole sur AAV Compound. Morpho, c'est à la fois le 3e plus gros protocole de lending, mais c'est aussi le plus gros utilisateur d'un protocole de lending. Parce qu'on est de loin le plus gros utilisateur d'AAV, de Compound, etc. Mm. Et c'est une position qui nous a permis de vraiment comprendre quels étaient les pain points de l'écosystème de lending en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que protocole, en tant que builder, etc. Et on distingue vraiment dans la DeFi 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les plateformes qui sont de l'ordre du decentralized broker, et donc le broker décentralisé, et les protocoles, les vrais protocoles. Ce que j'entends par là, broker décentralisé, c'est une plateforme qui va manager les fonds de l'utilisateur de façon décentralisée. C'est Maker, c'est AAV, où on a une infrastructure qui est open, transparente, et les décisions de changement du modèle de risque de la plateforme sont décidées de manière décentralisée. Et donc l'intérêt des brokers, c'est qu'ils fournissent à l'utilisateur une expérience très simple, très passive. C'est-à-dire que quand je vais sur AAV, je vais déposer mon argent, j'ai rien à faire, je fais confiance à l'infrastructure et à la DAO pour tout update pour moi. Donc ça, c'est un vrai avantage. Le désavantage, ceci dit, c'est que il faut faire confiance et à l'infrastructure et à la DAO. Et aujourd'hui, AAV, c'est plus de 500 paramètres de risque différents. C'est-à-dire qu'il y a 500 paramètres où s'il y a une mauvaise configuration de ces paramètres, potentiellement, il y a l'entièreté du capital qui est à risque. Et la manière dont sont décidés ces paramètres, alors certes, ils sont validés de manière décentralisée, mais la proposition qui est faite, elle est parfaitement closed source, elle est parfaitement opaque. C'est-à-dire que Gauntlet ou Chaos, qui sont les entreprises qui viennent proposer ces changements de paramètres de risque, arrivent avec une proposition. Et la DAO n'a pas la capacité de savoir comment ils sont arrivés à ce résultat.
Okay.
Ce n'est pas dans leur intérêt parce qu'il y a des questions de business model pour eux. Ils ne peuvent pas open source leur infrastructure, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les lending protocoles ont quand même un trust component qui est immense, qui est que l'entièreté du modèle de risque repose sur un code qui est parfaitement closed source. Et l'utilisateur n'en a pas forcément conscience de ça. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si le protocole voulait scale plus, il faudrait plus de paramètres. Il faudrait plus d'assets, donc ça implique plus de choses à manager. Et évidemment, ça a ses limites en termes de risque, mais aussi en termes d'opération. Voilà, une DAO, c'est décentralisé, c'est fait pour être lent. C'est pas fait pour réagir rapidement à tous les mouvements de marché. C'est fait pour être stable, au contraire, et on peut se poser sur les décisions, etc. Donc le protocole n'est pas capable de scale réellement sur plusieurs assets, etc. Et le dernier point, c'est l'efficacité. Déjà, on l'a prouvé avec la première version de Morpho, qu'on appelle Morpho Optimizer, où le spread entre les taux était important. Il n'y a pas qu'une question de taux d'intérêt, il y a aussi une question d'efficacité du capital, où quand je vais sur AAV, j'ai un collateral factor qui est relativement bas par rapport à ce qu'on peut trouver en finance traditionnelle. Donc le collateral factor, c'est le pourcentage de mon collatéral, donc de l'asset que je dépose en tant que collatéral, que je peux utiliser pour emprunter.
Donc j'apporte 100, je peux emprunter 80.
Exactement, voilà. 80%, ça voudrait dire 100, je dépose 100, donc je dois emprunter 80. Sauf qu'en finance traditionnelle, on est plus dans l'ordre de 99 quoi, que 80.
Ce qui existe avec le mode e-mode sur AAV,
c'est ça.
In fine, quand on a des assets similaires.
Exactement. Et donc, la solution qu'apporte AAV à ce problème, c'est d'introduire le e-mode qui rajoute des paramètres supplémentaires et qui, encore une fois, met à risque, enfin, complexifie toujours plus le modèle de risque de AAV. Ou s'il y a une mauvaise configuration, bah voilà, encore une fois, c'est l'entièreté des fonds des utilisateurs qui sont là. Et donc, honnêtement, enfin, je suis le fan de la première heure de ce modèle de landing pool qui a été introduit par Compound et merveilleusement bien exécuté par AAV. Mais aujourd'hui, la finance traditionnelle, le lending, c'était trilliards de dollars tous les jours. Je ne crois pas que ce modèle, dans son état actuel, soit capable de handle tout ce volume. Et à l'inverse, il y a une autre approche, qui n'est pas celle du broker décentralisé, mais qui est celle du protocole pur, qui consiste à dire, on va faire un protocole qui est extrêmement primitif, qui est complètement trustless, qui sera toute cette complexité qu'on fait pour l'utilisateur, on arrête de la faire pour l'utilisateur, on réduit le protocole à son strict minimal, et on lui fait faire une seule chose, on lui fait faire extrêmement bien, de manière complètement trustless, scalable et efficient. Et évidemment, bon, ce protocole, il est beaucoup plus difficile à utiliser en tant qu'utilisateur, ouais. Parce qu'on ne fait plus rien pour moi. C'est-à-dire que bon, j'ai plus le risk management qui est fait pour moi, on fait plus, voilà, il n'y a pas d'upgrade à faire, donc voilà, j'ai pas les features, etc. Mais par contre, on peut construire au-dessus des layers d'abstraction qui viennent reconstruire les expériences passives qu'on avait avec AAV, Compound, et même plus, on peut aller plus loin dans les layers d'abstraction. Et parce qu'on a un core protocole qui est ultra efficient, complètement trustless et très scalable et complètement open, on a la capacité d'aller beaucoup plus loin dans les layers d'abstraction qu'on peut faire. Là où dans AAV, parce que le protocole change en permanence, je sais parce que j'ai construit sur AAV pendant des années, c'est très compliqué. C'est très compliqué de vraiment faire une application qui pèse plus de 1 milliard sur AAV.
Est-ce que tu penses du coup que finalement tout ça n'est pas le Bitcoin? Parce que tu es en train de citer effectivement une couche très puissante qui sait faire qu'une seule chose et construire au-dessus, c'est ce qu'on a vu avec Bitcoin, il y a le Lightning Network, on a vu les NFT arriver avec les ordinals, on a vu la finance décentralisée arriver avec d'autres mises à jour. Finalement, tu n'es pas un peu Bitcoin maximaliste.
Malgré moi. Non, c'est intéressant comme parallèle et c'est rigolo parce que ce n'est pas la première fois qu'on me le fait, cette question. Alors, bon, à titre personnel, je suis maintenant assez loin des questions des Layer 1, etc. J'ai eu une longue passe où j'étais pro Bitcoin pendant dans les années 2015-2016. Puis plus progressivement, je me suis tourné vers Ethereum simplement parce que scientifiquement c'est plus intéressant pour moi parce qu'il y a plus de choses à faire, etc., plus de possibilités. Et de l'autre côté, Bitcoin m'a un peu déçu sur genre la communauté, la manière dont le protocole évolue, etc. Je suis resté un peu sur ma faim pour plein de raisons diverses. Mais il y a des idées, oui. Enfin, dans l'idée, je veux dire le principe. Je pense qu'avoir une core primitive efficiente et complètement trustless, c'est nécessaire pour au-dessus reconstruire des layers d'abstraction, etc. Maintenant, j'ai du mal à croire qu'avec une seule version, on soit capable de, dès le premier coup, avoir la version finale qui fait qu'on a le meilleur protocole du monde. C'est ce à quoi je ne comparerais pas avec Bitcoin, parce que Bitcoin, voilà, c'est l'idée qu'il y a une première version, on reste toujours sur cette même version. Je crois à l'innovation et je ne connais pas, bon, à part Bitcoin, je ne connais pas de logiciel d'algorithme informatique qui n'a pas évolué. C'est-à-dire que c'est un algorithme, ça évolue ou ça meurt au bout d'un moment. Et donc l'évolution est nécessaire dans tous les protocoles informatiques connus, il n'y en a pas un qui est resté sur ce truc initial.
Tout à l'heure, tu parlais effectivement de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée. Vous avez levé l'une des plus belles sommes ces dernières années et même la plus belle sur plein de paramètres. Ça a été facile de convaincre les gens VC ou les différents partenaires de donner de l'argent sur un projet comme celui-ci qui va justement essayer d'aller chercher un peu de terrain au niveau de la finance traditionnelle. Est-ce que ça a été facile de déposer cet argent sur un compte en banque? Est-ce que ça est facile aujourd'hui de continuer d'expliquer ce que vous faites dans un climat où la régulation se cherche? Et effectivement, on prend une direction qui n'est pas trop mauvaise, en Europe en tout cas.
Ouais.
C'est en train de se tasser aux États-Unis, on voit bien qu'on trouve des compromis, et heureusement, et ça aurait été bizarre autrement. Mais voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux en tant que porteur de projet?
Bon, déjà, le premier truc, c'est que c'est pas évident, quoi. Surtout, c'est de mieux en mieux, mais il y a encore quelques années, voilà, quand j'ai commencé à parler de DeFi à l'AMF, à la CPR, etc., c'était compliqué, quoi. Il y avait très peu de connaissances en interne, quoi, du côté des régulateurs,
ouais.
Ce qui est en train de changer à une vitesse folle, je trouve, et je salue d'ailleurs ça. Et donc, forcément, trouver un partenaire bancaire qui comprend ce qu'on fait et qui ne nous associe pas à l'activité illicite de revente d'armes, je ne sais quoi, c'est compliqué. Ça me paraît bête, mais c'est compliqué. Heureusement, on a fini par trouver des gens qui nous écoutent, qui on peut expliquer que ce qu'on fait, c'est du sérieux et que voilà. Mais au début, voilà, les amalgames étaient souvent présents, quoi. Effectivement, la direction est super excitante. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui voient de l'intérêt. C'est vraiment très récent, je pense, c'est sur les 6 derniers points où on s'écarte de la narrative casino complètement et on est plus dans la narrative internet du futur dans le cas d'Ethereum où voilà, finance résiliente et genre toutes les valeurs de DeFi sont vachement plus reconnues, je pense. Il y a encore un peu de mal sur les utilisateurs finaux voilà, qui voient encore le truc de manière très spéculative, etc. Mais je sens vraiment un switch côté des régulateurs, des institutionnels aussi. Enfin, de ces derniers mois ont été assez fous côté institutionnel. On voit une quantité de d'institutionnels qui sont en train de rush sur les technologies blockchain publiques, etc. Là où elles étaient sur des blockchains privées il y a encore 3-4 ans, où étaient en train de dire que voilà, ça c'est blockchain public, c'est un truc qui fonctionnera jamais.
Et que l'intelligence artificielle pourtant nous pique un peu de terrain sur les investissements, et effectivement ça continue d'être une narrative que les gens poussent, que ce soit dans le département innovation ou que ce soit dans le département de financement.
Complètement, ouais.
Ça n'a pas été abandonné là où souvent c'est des cycles quand même de.
Ouais, ça va vite. Et on a de nombreux institutionnels qui nous contactent et qui nous disent mais qu'est-ce qu'on peut faire avec vous en DeFi
alors qu'est-ce qu'on fait avec
dedans, etc. Alors, je peux pas dire grand-chose, mais.
Qu'est-ce que vous faites
avec
Parce qu'on avait AAV Arc, effectivement, il y a un an et demi à peu près, qui avait été lancé, qui était la version institutionnelle de AAV avec Fireblocks. Donc on comprend bien effectivement l'envie pour les institutionnels d'aller vers vos domaines d'expertise, mais avec un KYC supplémentaire, justement pour monter en capacité d'emprunt et ne plus être dans le ratio 80%.
C'est ça, ouais. Il y a plein de sujets pour les institutionnels, notamment le KYC. Voilà, ils veulent savoir d'où viennent les fonds, être capable d'en être sûr, quoi, à 100%. Il y a aussi des questions de trust, de confiance. Aujourd'hui, un institutionnel n'a pas envie de faire confiance à un risk manager décentralisé, par exemple. Donc l'approche broker décentralisé, c'est pas quelque chose qui affectionne parce que c'est compliqué. Justement, ils voient que c'est opaque, la manière dont c'est écrit, etc. C'est compliqué aussi, il y a des forums dans tous les sens. C'est vraiment une culture à avoir qui avance.
Ça leur fait trop peur, quoi.
Après, on a quand même notre euro numérique qui va être testé sur AMM.
C'est vrai.
Ce qui effraie le risk manager, c'est à partir du moment où il y a une partie du protocole qui est gérée par la DAO et qui est updatée constamment par la DAO.
Oui, bien sûr.
À partir du moment où on est sur un protocole immuable, complètement trustless, on a vu des expérimentations sur Curve V2, notamment.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises, avec la Banque de France et Singapour.
La banque centrale singapourienne.
C'est ça, ouais, exactement.
Ouais, c'était assez fou à voir. Et puis même avec une copie, je crois que c'était sur AAV pour le coup. Je crois que c'était une copie de AAV.
C'est ça,
effectivement, pour faire.
Ouais,
exactement. Ouais. C'était ce trio-là. Et ça date, effectivement, tu as raison, d'il y a à peu près un an, quand tous les banquiers centraux se sont réunis au Louvre. On a eu toutes ces annonces de monnaie numérique de banque centrale sur blockchain. Et effectivement, la banque centrale singapourienne, qui était la plus possible sur ses utilisations et sa compréhension de l'écosystème. Mais quand même, on avait notre gouverneur dans la Banque de France qui visait vouloir mettre l'euro numérique sur un AMM. Donc, on verra sur 2026-2027, on arrive là. Mais en tout cas, effectivement, tu as raison, il y a un SWIFT très récent de la part des institutionnels.
C'est impressionnant en termes de projets fundés aussi.
Ouais.
La quantité de projets qui travaillent sur ce qu'on appelle les real world assets, donc la tokenisation d'assets réels sur la blockchain, c'est phénoménal. C'est vraiment important.
Ça, c'est Forge qui avait lancé le premier gros coup d'envoi avec Société Générale, Jean-Marc Stengler.
Forge qui ont une avance.
Ouais.
Je salue énormément Forge. Ils ont une avance de fou par rapport aux autres institutionnels.
Ils ont emprunté sur MakerDAO quand même. C'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel parce qu'effectivement, il y a 2 ans, c'était une défiance totale. Et je pense qu'aussi, tu vois, la narrative de descendre du pourcentage de gens qui sont dans les desks au profit de la finance centralisée, c'est une narrative qui leur plaît évidemment aussi. Et puis encore une fois, effectivement, on va vraiment vers cet Internet avec une valeur intrinsèque et ça ne pourra se faire que sur ces blockchains. Donc ça va être assez amusant de voir ça. Et du coup, là, sur Morpho, si on termine sur ce point-là, j'ai pas posé la question traditionnelle de c'est quoi la roadmap dans le futur et tout, mais tu me disais, vous vous pluguez du coup à ces projets stratégiques. Est-ce qu'il y a un dernier gros projet sur lequel j'aimerais te plug pour rapporter de l'efficience? On a entendu Uniswap il y a quelques jours à ETC nous dire qu'ils allaient lancer leur équivalent Paraswap, hein, donc ne pas être qu'un seul échange, mais aussi pouvoir agréer d'autres échanges. Est-ce que c'est là aussi des choses sur lesquelles vous voulez vous diriger ou ce genre de choses?
Ouais, alors peut-être dans le futur, je pense que nous, l'objectif qu'on a en tant que Morpho Labs, c'est de faire une seule chose, du prêt à l'emprunt, de la faire le mieux possible. Et on ne veut pas de stablecoin, d'agrégateur, etc. On veut se focus, on est une équipe de, voilà, je disais tout à l'heure, de 20 ingénieurs, ils sont focus juste là-dessus. Faire du prêt à l'emprunt le truc le plus efficace, le plus résilient, le plus ouvert possible.
Et ça ne scalera jamais tant que du coup AAV ou Compound ne scale pas comme tu disais.
C'est ça, c'est pour ça que voilà.
Tu veux t'en détacher, c'est
ce que tu voulais. Parce qu'on voit trop de limites à ça. Je pense qu'on a exploré tout ce qu'on pouvait, c'est ça, ce qu'on pouvait faire avec, etc. Et aujourd'hui, on a le besoin de se détacher pour pouvoir avoir la capacité de scale plus, d'être plus efficace, d'être plus trustless.
Et ça, c'est quelque chose que tu avais en tête jour 1 que tu dévoiles aujourd'hui ou c'est venu
à non, c'est vraiment un truc qu'on avait depuis le début en tête. Le nom Morpho vient de là. C'est-à-dire que Morpho, c'est l'analogie du papillon qui commence comme une petite chenille dans sa pomme et qui progressivement va prendre son indépendance et s'envoler. Donc pour nous, c'était vraiment une manière de montrer ce qu'on savait faire.
Très bien.
C'était une go-to-market strategy, tout simplement. Mais depuis le début, on avait prévu cette métamorphose. C'était dans le white paper initial de 2021 que j'ai écrit. On a ces différents stages d'évolution, quoi. Voilà. J'étais content que ça se réalise finalement et que bientôt on aura cette version indépendante de Morpho.
Trop bien, on gardera ça, on met tout ça en description pour ceux qui veulent aller plus loin et on mettra aussi des extraits de ton rap. Quand est-ce que tu rappes alors?
Alors, le deal pour le rap, c'était si j'arrive à 1 milliard de TVL avant SEC, j'aurais à faire un rap. Il se trouve qu'on était vers 900 millions à peu près le samedi ou le vendredi, et là, Ripple annonce qu'ils ont remporté leur trial. Et donc ça a fait pump ETH et on se retrouve avec un 950 millions et j'étais en mode oula non pas juste avant s'il vous plaît. Et pour une fois que je suis pour la SEC. Finalement il n'y aura pas de rap du moins pas cette année, mais peut-être du coup l'année prochaine, je sais pas, on verra bien.
On fera en sorte de en tout cas. Merci Paul, à très vite.
Merci beaucoup.